Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 3, 3. Les cérémonies. Je voudrais rappeler encore un autre fait social qui prendra une grande importance, celui des fêtes, des cérémonies, qui existent déjà chez les animaux sociaux et qui va avoir un grand développement dans les populations humaines primitives. Le livre d'Espinasse sur les sociétés primitives, le livre de J.C. Houzeau, Les facultés des animaux comparées à celles des hommes, le livre de Kropotkin, Mutual Aid, nous décrivent beaucoup de ces réunions, les assemblées des hirondelles avant le grand voyage, celles des pies, des corbeaux, celles des singes, qui font grand tapage en frappant sur des troncs d'arbres, etc. Boxweiler, Esquisse d'une sociologie, 1906, page 89. On trouve beaucoup de ces réunions chez les primitifs. Elles existent encore aujourd'hui avec beaucoup de complications. Durkheim, dans son livre sur les religions primitives, a fait une description restée classique d'une de ces cérémonies, des fêtes de l'Ictishuma chez les Australiens. Cette cérémonie est célébrée à la fin de la période sèche, quand la végétation va renaître et que les animaux vont pulluler. Ces populations sauvages interrompent leurs travaux ordinaires. Ils font souvent de longs trajets pour arriver à se réunir. Costumés d'une manière spéciale, ils dansent et crient en commun dans une même enceinte. Puis, ils absorbent tous ensemble une nourriture spéciale. Chacun mange une pincée d'une poudre faite avec des chenilles desséchées et écrasées. Cette préparation de la cérémonie, cette sorte de communion que font tous ces individus en mangeant ensemble un peu du même aliment, leurs cris, leur tapage, leur joie, tout cela se retrouvera dans la plupart des réunions populaires. Ce qui caractérise ces cérémonies, c'est d'abord la réunion et l'effort pour se réunir, quand ils vivent d'ordinaire dispersés. C'est ensuite la communauté des actes, souvent peu utiles en eux-mêmes, qui sont faits visiblement en vue de créer cette uniformité. Ils sautent, ils crient tous ensemble, de la même manière, ils mangent le même aliment. L'effort vers l'uniformité est si grand que l'on expulse les individus non conformes et que des gardes placés autour du lieu de réunion empêchent les étrangers de pénétrer dans le terrain réservé. Cet effort pour arriver à la prise de conscience du groupe est si frappant que Durkheim n'était pas loin d'admettre une sorte d'âme du groupe qui se constituait et qui acquerrait une vie propre. Nous n'osons pas aller si loin, et nous ne constatons d'action en rapport avec le groupe que chez les individus mêmes qui le constituent. Mais il est juste de remarquer, chez eux, des actions particulières en rapport avec l'uniformité des membres de la société, actions qui vont devenir le point de départ de véritables objets intellectuels comme le totem du groupe. L'association pour la vie, disait Tarde, se nourrit de similitudes. On ne s'allie, on ne s'aime vraiment qu'entre semblables. Tarde, Revue philosophique, 1893, Grand 2, page 579. Mais les similitudes sont rares, et on peut les attendre longtemps si on se borne à profiter des similitudes fortuites. Ce qui caractérise les sociétés, c'est que les individus remarquent les similitudes quand elles existent, qu'ils les cherchent et qu'ils travaillent à les produire. Ce qui est aussi caractéristique dans ces fêtes, c'est l'excitation qu'elles procurent à tous ceux qui y prennent part. Les aliénistes avait déjà signalé les phénomènes d'excitation dans les maladies mentales. Et dans plusieurs ouvrages, j'avais montré le rôle de l'excitation dans le traitement des névroses et les recherches à l'excitation psychologique chez les malades. Les médications psychologiques, 1919, grand 3, les traitements par l'excitation. Durkheim a voulu appliquer à l'interprétation des conduites cérémonielles des primitifs ces notions de psychologie pathologique. Il a montré que ces individus qui se réunissent de cette façon sont satisfaits et joyeux pendant la fête et qu'ils sortent réconfortés, plus capables qu'auparavant d'affronter le travail pénible et les luttes de la vie. Cette excitation qui arrête les dépressions, qui soulève l'homme au-dessus de lui-même en rendant à ses actions de la force et de la tension, est un phénomène aujourd'hui bien connu. L'excitation apparaît sous bien des influences. Elle peut être consécutive à l'usage de certains aliments et même de certains poisons. Elle est produite par le simple exercice de certaines actions, comme les mouvements violents et les cris. Mais elle apparaît surtout à la suite de certaines actions sociales. Et c'est là le point de départ de bien des recherches de la domination, de la direction ou de l'amour. Nous voyons ici cette excitation sociale sous sa forme la plus simple, dans ses réunions et ses fêtes. Elle dépend de l'imitation, de la conformité elle-même, des danses et des cris en commun. Comme disait Tarde, c'est la foule qui se donne en spectacle à elle-même, qui attire et admire la foule. Durkheim a fait une étude intéressante sur les consolations de la tristesse par les réunions, les cérémonies bruyantes qui se font autour des enterrements. La douleur des parents du mort, au lieu d'être augmentée par les manifestations plus ou moins vraies de la douleur des autres, est diminuée par l'excitation que cause la réunion, l'imitation d'une foule considérable. Un point sur lequel il faut insister, c'est que cette excitation par la réunion ne se produit pas ici d'une manière accidentelle, comme cela arrive probablement dans des réunions d'animaux. Cette excitation semble avoir été plus ou moins constatée et recherchée. Ces primitifs cherchent à la reproduire sans se rendre bien compte du procédé qu'ils emploient. Il s'agit en réalité d'un acte de jeu dont nous étudierons le mécanisme. On recherche une réaction de triomphe après des actions réduites, simples et peu coûteuses. L'intelligence sera plus tard le développement de ces premiers phénomènes sociaux qui amènent l'excitation et la joie. Cette excitation sociale n'apparaît pas seulement dans les grandes fêtes où la foule est réunie. Elle peut être procurée par des réunions beaucoup moins nombreuses avec des individus déterminés. Les hommes trouvent cette excitation dans les relations sexuelles, dans l'exercice de la domination sur un petit nombre de personnes, dans les compliments et les flatteries qu'ils reçoivent de quelques personnes. Ces individus, dont on attend le réconfort, forment un groupe distinct de la société complète dont nous venons de parler. Nous les avons désignés sous le nom de groupe des familiers. L'année dernière, en étudiant les sentiments des persécutés, nous avons remarqué que ces malades, sauf dans les dernières périodes, n'éprouvent pas leur sentiment d'emprise à propos d'une personne quelconque. Le persécuteur se recrute toujours dans ce groupe spécial des familiers. Il s'agit d'individus auprès desquels nous avons l'habitude de rechercher les excitations sociales par la conversation, qui est un jeu du langage, par des controverses, qui sont des jeux de la bataille, par des dominations, des exigences de compliments et de caresses. Toujours, nous attendons des familiers des conduites spéciales qui nous donnent des excitations et des joies. Le délire de persécution vient souvent d'un insuccès dans la recherche de ces excitations sociales. Les réunions amicales entre des individus déterminés commencent de bonne heure et prépare l'intervention de l'intelligence dans ces groupements sociaux. C'est ainsi que le groupe se constitue psychologiquement. La réunion d'un certain nombre d'êtres vivants de la même espèce commence accidentellement comme conséquence de la génération ou des circonstances externes qui rassemblent ces êtres au même endroit. La société se forme ensuite par une série de conduites qui transforment ces premiers rassemblements mécaniques en une réunion psychologique formée et entretenue par des conduites sociales. Des réactions perceptives particulières, analogues à celles du corps propre, ont constitué l'homme distinct des autres objets et vis-à-vis duquel on a déjà des conduites particulières. Puis, de nouvelles conduites, les réactions aux actes et l'imitation qui sont les premières conduites sociales, ont constitué le socius. On peut dire que les premières formes des réunions de ces socii ont été quelque chose d'analogue à ce que nous appelons aujourd'hui la foule. Tous les visages ont le même masque, toutes les voix ont le même cri. À voir dans toutes les figures l'image de son désir, à entendre dans toutes les bouches la preuve de sa certitude, chacun se sent emporté sans résistance dans la conviction de tous. Le corps social est véritablement réalisé, la représentation de la société survit à la réalisation de la société. H. Baer, La synthèse historique, 1911, page 167-168. La foule, sous cette forme inférieure, n'existe plus guère aujourd'hui que sous forme momentanée à la suite d'une dépression générale. Des actes nouveaux et plus précis se surajoutent aux premiers actes sociaux, en particulier les conduites hiérarchiques, les recherches de l'excitation dans les réunions publiques ou particulières, qui sont des sortes de jeux des actions sociales. Ces nouvelles conduites donnent naissance aux sociétés hiérarchiques, dans lesquelles se groupent non seulement les compatriotes, mais encore les familiers. On a dit quelquefois que les sociétés étaient fondées par la force du groupe qui s'imposait à l'individu, comme Durkheim l'a quelquefois laissé entendre. Ce n'est pas très intelligible, car pour que la société ait cette force, il faudrait qu'elle existât déjà. La société ne se forme pas non plus par la guerre, comme l'a dit le Dantec. Elle se forme graduellement par une série d'actes inventés par l'homme, puis répétés, superposés les uns aux autres, parce qu'ils étaient utiles et qu'ils amenaient des progrès.